Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Dans Affaires sensibles, aujourd'hui, l'affaire Markovic, l'une des plus sensibles, précisément de la Ve République. Une histoire qui aurait pu écarter définitivement Georges Pompidou de la vie politique française. L'affaire Markovic ou les ravages d'une terrible rumeur basée sur des allégations liant à la fois le monde des voyous, du cinéma et de la politique. Le bruit de la rumeur, le bruit de la calomnie, toujours plus efficace que les preuves, les faits. Ainsi, d'octobre 1968 jusqu'à l'élection de Georges Pompidou en juin 1969, la presse et la justice vont se nourrir d'une histoire impliquant la femme de l'ancien Premier ministre, laissant entendre qu'elle participait à des soirées fines, disons-le comme ça, organisées par un homme retrouvé mort dans une décharge. Dans la France corsetée des années 60, et même si le mouvement de mai 68 a un peu déboutonné cette France qui s'ennuie, comme l'écrivait Pierre Viançon-Ponté dans le journal Le Monde, les histoires de sexe choquent l'opinion, surtout si elles impliquent les plus hautes autorités de l'État ou leurs proches. Bien sûr, toutes ces allégations contre Madame Pompidou étaient fausses, non fondées, sur la base de photomontages truqués. Mais aujourd'hui encore, nous ne savons pas qui fut à la source de la rumeur qui marqua de façon définitive la fin de la relation confiance entre le général de Gaulle et Georges Pompidou et qui aurait pu empêcher ce dernier d'accéder à la présidence de la République. Peut-être était-ce là d'ailleurs le but de la manœuvre. En seconde partie, nous recevrons Éric Roussel, journaliste, écrivain, auteur de la biographie Georges Pompidou. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius, Coy Nguyen, à la technique Loïc Frapsos, Raphaël Rousseau.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles.
L'affaire Markovic, il y aura peut-être du nouveau ce soir.
L'affaire Markovic.
Il est vrai que Stéphane Markovic n'hésitait pas à se livrer à tout trafic susceptible de lui apporter vite et beaucoup d'argent.
Je fais la part de la campagne d'intoxication politique dont les causes et les origines sont diverses, mais dont les objectifs sont identiques.
C'est tout.
Il y en a qui m'appellent Georges, il y en a qui m'appellent Pompidou. Quand on me connaît peu, je crois qu'il faut même m'appeler monsieur, je ne tiens aucun titre.
À Versailles, le juge Patard doit interroger le premier inculpé de l'affaire Markovic, François Marc-Anthony. À Paris, les enquêteurs doivent entendre Alain Delon.
Mon audition a porté essentiellement sur les points suivants. Reconstitution détaillée de ma vie au 22 de l'avenue de Messine et de l'ambiance familiale. Plus qu'aucun autre, je souhaite que le travail des officiers de la police judiciaire produise d'autres fruits que celui de la déception.
Le 20 juin 1969, Georges Pompidou est investi officiellement président de la République française. Après 4 semaines de campagne, il vient de battre au second tour le centriste Alain Poher, récoltant plus de 58% des suffrages. La gauche, elle a été balayée dès le premier tour. Quelques heures après la cérémonie, Georges Pompidou accueille avec Claude, sa femme, des journalistes dans les jardins de l'Élysée. Changement de locataire, changement de décor, changement de style. C'est la première fois que des journalistes sont invités à accompagner le président et son épouse dans leurs premiers pas à l'Élysée. La télévision, il faut le dire, est désormais dans de nombreux foyers et l'image du couple est attendue dans toutes les salles de rédaction. Elle fera la une des journaux dès le lendemain, témoignant d'une certaine modernité après ces années d'exercice paternaliste du pouvoir par le général de Gaulle. Ce jour-là, dans les couloirs de l'Élysée, ce sont également les derniers instants de Maurice Couve de Murville en tant que Premier ministre, lui qui avait remplacé Georges Pompidou pendant l'été 1968 à Matignon. Ce personnage austère ne sera pas reconduit par le nouveau locataire de l'Élysée. Entre les deux hommes, c'est une opposition de style et de courant. Ils représentent chacun 2 camps du gaullisme qui se font face depuis 1944. Il y a ceux qui ont partagé auprès du général l'exil à Londres ou à Alger pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Maurice Couve de Murville précisément, ou René Capitan. Et puis il y a ceux qui, comme Georges Pompidou, ne viennent pas des rangs de la résistance, mais qui ont su, au lendemain de la libération, voir en De Gaulle un homme d'État pouvant reconstruire la France au lendemain des années noires. Mais en ce 20 juin 1969, c'est aussi une revanche pour Georges Pompidou qui a vécu durant les 9 derniers mois l'une des plus sordides machinations de la Ve République et dont Maurice Couve de Murville fut l'un des acteurs en ne protégeant pas l'ancien Premier ministre. Dans le jardin de l'Élysée, Georges et Claude font face aux objectifs et aux journalistes qui, pendant 9 mois, ont été les mêmes, oui, les colporteurs de rumeurs infondées sur la vie de la Première Dame. 9 mois au cours desquels Georges Pompidou a dû éviter les pièges et les ragots, faire face aux fuites continues d'informations relevant du secret de l'instruction et protéger ses proches, tout en continuant son chemin vers son destin national. Calomnié, calomnié, il en restera toujours quelque chose. Revenons donc 9 mois plus tôt, au moment où Georges Pompidou redevient député du Cantal et se met en réserve de la République, comme on disait alors et comme on le dit encore aujourd'hui.
Puisque vous me parlez de M. Pompidou, eh bien je vous dirai ceci. Il fut mis en réserve de la République.
Pompidou, 56 à 58%. Poher, 42 à 44%. Abstention de 26 à 29%. Bulletin nul de 5 à 7%. Georges Pompidou sera le prochain président de la République française pour une durée de 7 ans.
1er octobre 1968, une dépêche anodine tombe sur les téléscripteurs des salles de rédaction.
Le corps d'un homme enveloppé dans une toile plastique a été découvert dans un ravin près d'Elancourt dans les Yvelines. L'homme est âgé de 30 à 40 ans. La victime porte une profonde blessure à la tête qui, l'autopsie l'a confirmé, est à l'origine de la mort. L'enquête est en cours.
Voilà un fait divers qui fleure bon le règlement de compte entre voyous, mais qui tout d'un coup change de registre. Et pour cause. L'homme retrouvé mort, un certain Stéphane Marković, jeune Yougoslave de 31 ans, a été pendant 4 ans le garde du corps. L'homme a tout fait, l'ami de l'une des plus grandes vedettes du cinéma français, Alain Delon. De plus, c'est au 22 rue de Messine, dans le 8e arrondissement, domicile de l'acteur, qu'aurait été aperçue pour la dernière fois la victime, ce Marković, dont le nom va devenir célèbre. Quelques jours après la découverte du corps, son frère, Alexander Marković, qui vit en Yougoslavie, transmet aux enquêteurs des lettres prémonitoires envoyées quelques jours avant sa mort par Stéphane Marković, où celui-ci indique que s'il lui arrive malheur, il faudra se retourner du côté d'Alain Delon et de son ami François Marcantoni. Le 8 octobre, l'affaire s'accélère. Alain Delon est interrogé une première fois à Saint-Tropez, où il tourne en compagnie de Romy Schneider le film La Piscine. Quelques jours après, l'acteur rentre à Paris pour y être de nouveau interrogé avec sa femme pendant de longues heures. 6 jours plus tard, toute la presse est présente et l'information est désormais sur toutes les ondes.
Le mystère qui entoure l'assassinat de Stéphane Marković, ce Yougoslave, ancien secrétaire et garde du corps de l'acteur de cinéma Alain Delon, ce mystère a fait encore passer une nuit blanche aux enquêteurs de la première brigade mobile. Tard dans la nuit, ils ont entendu plusieurs témoins susceptibles de rapporter des éléments nouveaux dans cette affaire assez mystérieuse. Donc parmi eux, Alain Delon et sa femme Nathalie.
Oui, Stéphane Marković a été en effet pendant longtemps le secrétaire et en même temps le garde du corps d'Alain Delon. Le 1er octobre dernier, on a découvert le corps martyrisé de Marković dans une décharge publique de Pontchartrain dans les Yvelines. Alain Delon avait été entendu alors par les policiers. Cette fois, Alain et Nathalie Delon ont été entendus jusqu'à 3 heures du matin. Et bien que le mutisme le plus complet entoure cette nouvelle audition, il est fort possible que le couple soit entendu de nouveau aujourd'hui.
Alain Delon préfère garder le silence sur ses rendez-vous judiciaires. Il poursuit sa vie mondaine. Le soir même, il se fait photographier au bras de sa nouvelle compagne, Mireille Darc, à l'entrée de l'opéra pour une soirée de gala. Mais dans la salle, tous les regards sont rivés vers un autre couple, habitué lui aussi de ce genre de soirée, le couple Pompidou. Dans la journée, la presse écrite se fait l'écho de rumeurs autour de l'affaire Marković. Dans les pages du Figaro datées du 14 octobre, on peut lire.
Stéphane Marković avait de nombreuses relations dans les milieux politiques, du spectacle et de la chanson. C'est ainsi que l'on évoque le nom de plusieurs actrices, chanteuses, de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de 2 hauts fonctionnaires également et de plusieurs vedettes.
La femme d'un ancien membre du gouvernement, c'est Claude Pompidou. Depuis plusieurs jours, le tout Paris colporte une rumeur. Elle participe à des soirées fines. Le couple Pompidou ne sait rien encore sur ce bruit qui court. Le lendemain, le 15 octobre, François Marcantoni, cité par Stéphane Markovic dans sa dernière lettre, est entendu pendant plus de 50 heures sur ses activités le soir du crime. L'affaire, désormais, n'est plus un simple fait divers, mais un scandale liant vedette du cinéma et la femme d'un homme politique français de premier plan. L'affaire Markovic est lancée.
Je proteste contre la fausse information diffusée par le plus important quotidien du soir. Je proteste à nouveau contre les méthodes d'information d'un autre quotidien, du matin celui-là, qui publie les photos de gens qui sont inconnus de moi et les représente comme mes amis.
Pendant plusieurs semaines, cette affaire fait la une de la presse écrite. Sur les ondes officielles, seul l'aspect judiciaire est évoqué par quelques brèves. Nous sommes à une époque où France Inter, par exemple, est considérée par le pouvoir comme la voix de la France. Les temps changent, et c'est bien ainsi. À Versailles, le juge Patard, en charge de l'affaire, demande une nouvelle autopsie du corps de la victime. Et là, il découvre que Markovic est mort d'une balle en pleine tête et non pas d'un mauvais coup reçu sur le crâne. Dans le même temps, une lettre d'un détenu yougoslave de la prison de Fresnes, Boribojs Akoč, envoyée à l'attention d'Alain Delon, tombe opportunément dans les mains de la censure, puis elle est transmise au juge Patard. Des policiers sont alors envoyés à Fresnes pour l'interroger. Pendant cet interrogatoire, Boribojs Akoč confirme la rumeur des soirées fines organisées par Markovic et des photos qu'il prenait. Il dit y avoir lui-même participé, notamment dans une sublime villa à Montfort-l'Amaury, où il aurait eu des rapports sexuels avec une grande femme blonde de 45 ans. Or, Claude Pompidou est une grande femme blonde de 45 ans. Le juge Patard se méfie de ces affirmations si vite obtenues, de cette lettre subitement interceptée et si bien écrite pour un ressortissant étranger. Pourtant, c'est l'histoire de ces soirées qui est désormais au cœur de l'affaire. Dans le même temps, les services du SDES, l'ancêtre de la DGSE, lancent une investigation sur ces photos libertines qui seraient diffusées sous le manteau à Paris. Une note est rédigée par Jean-Charles Marchiani, un Corse ancien militant de l'Algérie française qui est entré dans les services du contre-espionnage français. Les déclarations de Boribojs Akoč et la note du SDES sont désormais sur les bureaux du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, du ministre de la Justice, René Capitan, et du premier ministre, Maurice Couve de Murville. Le général de Gaulle, quant à lui, est prévenu à son domicile de Colombey-les-Deux-Églises par son secrétaire général, Monsieur Bernard Tricot. Le couple Pompidou ne sait toujours rien de la rumeur. Non, il profite du week-end de la Toussaint dans sa maison de Cajard, dans le Cantal. C'est à leur retour, dans leur nouveau quartier, au boulevard de la Tour-Maubourg, à Paris, que Georges Pompidou et son épouse apprennent l'existence de la rumeur. C'est un coup terrible, mais Georges Pompidou fait face, lance ses hommes pour récolter le plus d'informations possible et poursuit sa vie politique. Au début du mois de décembre, il rencontre une seconde fois le général de Gaulle à ce sujet. Il passe par l'entrée réservée aux visites discrètes, celle de l'avenue Gabriel, la fameuse grille du coq. Georges Pompidou raconte cette discussion dans son livre posthume intitulé « Pour rétablir la vérité ».
Ce jour-là, j'avais demandé que M. Tricot assistât à l'entrevue, afin qu'il puisse noter les faits que j'allais révéler et aussi puiser quelques motifs de prudence dans le ton de mon entretien avec le général. Je démontais le mécanisme de l'opération judiciaire. Tout cela, exposé avec précision à l'appui, le général m'écouta avec stupeur. Devant moi, il demanda à Tricot de convoquer Capitan. Je sais que l'entretien eut lieu et que Capitan, bon gré mal gré, invita le parquet à diriger l'enquête sur la recherche des assassins, ce qui était, il faut bien l'avouer, leur devoir élémentaire. En me quittant, le général me conseilla de traiter les racontars par le mépris, en me disant que la calomnie était dans le destin des hommes d'État. Je lui répondis que je l'aurais ainsi compris s'il ne s'était agi que de moi, mais que s'agissant de ma femme, la fureur ne pouvait pas ne pas prendre le pas sur le mépris.
La rumeur est tenace, dévastatrice, cruelle. Claude Pompidou ne sort plus de chez elle. Georges, de son côté, s'attelle à ses deux tâches, laver l'honneur de sa famille et continuer son chemin politique dans ces conditions à chemin de croix. Au début du mois de janvier, à Versailles, les auditions de témoins s'enchaînent. Le frère de la victime, Alexander Markovic, est en France pour quelques jours. Son avocat, Roland Dumas, l'accompagne pendant ses interrogatoires.
Mais interrompant la confrontation et sortant de chez M. Patard, voici Maître Roland Dumas et son client M. Alexandre Markovic, lequel ne parle pas français et a demandé à me répondre en anglais. Sir, what is your impression after these two and a half days? Quelle est votre impression après ces deux jours et demi?
I'm coming here to France to help French government, French jurisdiction, and I can say to you that I believe the people that we will be finding, the people who is the responsible of the death of my brother.
Monsieur Markovitch est ici pour aider la justice française et il est certain que l'on va finir par trouver le meurtrier de son frère, Stéphane Markovitch. Merci, monsieur. Maître Roland Dumas, quelle est votre impression à vous et que pouvez-vous nous dire sans violer le secret de l'instruction?
Je peux vous dire ce que vous savez déjà en partie, que nous travaillons depuis 3 jours d'arrache-pied, 2 jours et 2 nuits, que les confrontations, les auditions et les interrogatoires ont apporté quelques éléments nouveaux. L'enquête se poursuit la semaine prochaine et je pense que l'on découvrira le ou les assassins de M. Markovitch Stéphane.
Merci, maître. Thank you, sir. Ici Versailles, à vous Paris.
Quelques jours plus tard, l'enquête connaît un nouvel épisode. Le 16 janvier 1969, un mandat d'arrêt est lancé contre François Marcantoni. Des avis de recherche sont diffusés sur tout le territoire. À 22h37, il est arrêté à Cannes, dans le restaurant de son frère. Cet événement fait la une des médias.
On s'en doutait depuis quelques jours, on peut même parler maintenant de la première phase du dénouement de cette affaire. Antoine Marcantoni a été arrêté cette nuit à Cannes, sur mandat d'amener du juge Patard. Il vient d'être inculpé de complicité de meurtre.
Qui est Antoine Marcantoni? Eh bien, c'est un ancien truand de 52 ans, gérant d'un bar-restaurant parisien, et surtout, un ami d'Alain et de Nathalie Delon, dont on va peut-être de nouveau reparler dans cette affaire. Ce n'est pas la première fois que Marcantoni est en contact avec la police dans cette affaire. Il avait déjà été interpellé et longuement entendu en octobre dernier. Mais aucune charge n'avait pu être retenue contre lui. Il avait été remis en liberté provisoire et avait même affirmé, très sûr de lui, « Si j'avais eu un cadavre à faire disparaître, il y aurait maintenant du gazon dessus. Mais dans cette affaire, on n'aura jamais de preuves. »
Georges Pompidou est en voyage à Rome quand il apprend la nouvelle. Comme lors de chaque déplacement à l'étranger, des journalistes français sont présents car tous ont compris que l'ancien Premier ministre s'est forgé un destin présidentiel et qu'il est fort probable qu'il soit candidat à la succession du général de Gaulle. Lors d'une discussion informelle, Georges Pompidou répond à des questions sur son avenir puis indique, je le cite, « Ce n'est, je crois, un secret pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République lorsqu'il y en aura une. Mais, ajoute Georges Pompidou, je ne suis pas pressé. » Le lendemain, toute la presse revient sur cette déclaration, sauf les informations officielles des antennes de l'ORTF. C'est que l'ambition nationale de l'ancien Premier ministre, redevenu monsieur le député du Cantal, passe mal à l'Élysée. Et d'ailleurs, la réponse du général tombe, glaciale, par une formule dont il a le secret. Je le cite là encore. « Dans l'accomplissement de la tâche qui m'incombe, j'ai été le 19 décembre 1965 réélu président de la République pour 7 ans par le peuple français. J'ai le devoir et l'intention de remplir ce mandat jusqu'à son terme, autrement dit, circuler. » Georges Pompidou ne bronche pas, il poursuit sa marche aux côtés de ses fidèles qui l'accompagnent durant ces mois difficiles. Avec l'arrestation de Marcantoni, tout le monde pense que les rumeurs contre Claude Pompidou cesseront. On se trompe.
On ne tue pas son prochain. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas bien. On attend que la table soit mise et l'on se présente. Et on mise sur la mort proche et la mort approche. Et quand il meurt, ses enfants demeurent et son héritage, on se le partage. On ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. Ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. On attend que la table soit mise et l'on se présente. Et l'on mise sur la mort proche, et la mort approche. Et quand il meurt, ses enfants demeurent. Et son héritage, on se le partage. Mais on ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas. Ça n'est pas bien. Et quand on l'a tué, qu'en fait-on? Le corps desséché. l'essence. Et si la décence vous l'autorise dans la cheminée, on le fait brûler. On ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas, ça n'est pas bien.
Lors de son audition, au mois de janvier, Alexander Markovic, le frère de la victime, fait des déclarations étonnantes au juge Patard. Il déclare avoir dîné chez les Delon, au 22 rue de Messine, en compagnie de son frère, de François Marc-Anthony et du couple Pompidou. Selon ses dires, ce repas se serait déroulé dans la cuisine de la star. Pour la première fois, le nom des Pompidou est inscrit dans les pièces du dossier. Le 23 janvier, Alain Delon est de nouveau entendu par le juge. Après 35 heures de garde à vue, l'acteur est libéré. Le soir même, il fait une déclaration à la télévision où il réfute toutes les accusations et les déclarations des différents témoins, dont le frère de Stéphane Markovic.
Le 30 octobre dernier, je me suis engagé à tenir l'opinion publique informée. Je le fais de la manière la plus objective possible. Je proteste contre la fausse information diffusée par le plus important quotidien du soir. Je proteste à nouveau contre les méthodes d'information d'un autre quotidien, du matin celui-là, qui publie les photos de gens qui sont inconnus de moi et les représente comme mes amis. Toutes les déclarations, même les plus extravagantes, des témoins yougoslaves ont été réexaminées. Il a été très peu question de François Marc-Anthony. J'ai dû aussi subir la lecture des déclarations de tous les mythomanes, nymphomanes, désaxés, maître chanteur dédaigné, personnel congédié, qui dans des affaires de cette nature, m'a-t-on expliqué, forme le lot habituel des témoins spontanés qui crient au scandale si on ne les écoute pas et qui se précipitent dans certaines salles de rédaction si la police les éconduit. Le seul fait réel du dossier sont les lettres de Stéphane. Elles sont aux mains de la justice depuis près de 4 mois maintenant. Pourquoi prendraient-elles aujourd'hui une importance plus grande que celle qu'elles avaient hier ? Je puis affirmer, si j'en juge par les questions posées, qu'il n'y a strictement rien d'autre dans le dossier, en dépit des rodomontades et des déclarations fracassantes, strictement rien d'autre me concernant ou concernant mon entourage. Je demande que l'on s'arrête de jouer à qui tout double, avec mon honneur, comme avec la vie de mon fils et celle de sa mère.
Delon ne cite pas le nom des Pompidou, qu'il a déjà rencontré, certes, mais avec qui il n'a jamais partagé la table de son domicile au 22 rue de Messine. Le 13 février, Alexander Markovic est de nouveau en France, où il est confronté à François Marc-Anthony et Alain Delon. Les deux hommes réfutent encore une fois les allégations du frère du défunt. Bien. Mais alors, pourquoi les juges poursuivent-ils cette piste ? Comment peut-on imaginer qu'un premier ministre dîne dans la cuisine du star de cinéma avec un homme du milieu corse et deux inconnus ? N'est-il pas possible de comparer les dates de ce soi-disant dîner avec l'agenda officiel de Matignon ? Et puis enfin, comment la femme d'un premier ministre aurait-elle pu s'égayer dans des soirées fines pendant des mois sans que cela ne fuite dans la presse ou dans les ministères ? Ainsi va la rumeur, plus forte que l'information, et elle se poursuit.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Markovic. Pour en parler avec nous dans quelques minutes, Éric Roussel, biographe de Georges Pompidou, il est notre invité. Six mois après la mort de Stéphane Markovic, le 4 mars 1969, pour la première fois depuis la révélation de l'affaire, dans la presse, les noms de Monsieur et Madame Pompidou sont cités sur les ondes officielles, comme si quelqu'un avait donné son feu vert.
Du nouveau dans l'affaire Markovic, ce matin, les avocats de Marc-Anthony ont demandé au juge Patard l'audition de Monsieur et Madame Georges Pompidou. Dans la lettre déposée ce matin sur le bureau du juge d'instruction, les avocats de Marc-Anthony déclarent que Monsieur Alexandre Markovic aurait pris part à un dîner chez Monsieur Alain Delon, où se seraient trouvés présents Stéphane Markovic et Monsieur et Madame Georges Pompidou. Par la suite, lors de son audition, Alain Delon a affirmé n'avoir jamais reçu Monsieur et Madame Georges Pompidou à sa table. C'est pourquoi les défenseurs de François Marc-Anthony demande que M. et Mme Pompidou soient entendus. Voilà, affaire à suivre.
Souvenons-nous en effet qu'à cette époque, toute info politique sensible n'est diffusée sur la radio ou la télé publique qu'avec l'aval du ministre de l'Information, véritable rédacteur en chef des rédactions de l'audiovisuel d'État. Alors si le nom des Pompidou est désormais sur la place publique, sur les antennes de la radio publique, de la télé publique notamment, c'est que le secrétaire d'État à l'information, Joël Leutel, a donné son accord. Au 8 boulevard de la Tour Maubourg, dans les bureaux de l'ancien Premier ministre, c'est le choc. Michel Jobert, l'ancien directeur de cabinet de Georges Pompidou, téléphone à Bruno Delos, directeur de cabinet du Premier ministre Maurice Couve de Murville. Celui-ci nie toute implication de Matignon et promet d'en faire part à Joël Leutel. L'information est maintenant officielle et diffusée partout. Alors, Georges Pompidou, si pudique, doit s'exprimer sur l'affaire Marcovic qui le salit et qui projette sur lui comme une ombre insupportable à chacun de ses déplacements depuis près de 6 mois. Pour la première fois, le cabinet de Georges Pompidou réagit publiquement dans un communiqué.
Selon une information diffusée ce matin par l'ORTF et reprise par la presse, les défenseurs d'une personne inculpée dans une affaire judiciaire ont demandé l'audition de monsieur et madame Georges Pompidou. Cela fait suite à une série de rumeurs mensongères complaisamment répandues depuis plusieurs semaines à des fins totalement étrangères à l'intérêt de la justice. Le secrétariat de l'ancien Premier ministre du général de Gaulle fait connaître que monsieur Pompidou et son épouse ignorent tout des causes et des circonstances de ce fait divers.
Au hasard de cette journée terrible du 4 mars 1969 où l'avenir politique de Georges Pompidou se joue et se déjoue, le journaliste Georges Suffert est dans les bureaux de la Tour Maubourg. En septembre 1975, dans les pages du Point, il revient sur sa discussion avec Georges Pompidou. Après avoir appris la diffusion de sa demande de convocation par l'un des avocats de Marcantoni, Georges Pompidou confie à Georges Suffert.
On dit que je tiens à ma carrière. Eh bien, je vais vous confier quelque chose. Si je reçois cette convocation, je m'y rendrai. Mais auparavant, je tiendrai une conférence de presse. Ce sera la fin de Georges Pompidou comme homme politique. Mais vous aurez de la copie pour des mois. Je n'ai pas le goût du suicide. Je suis trop nonchalant pour me scandaliser. J'ai le cuir épais. Mais il y a des moments où il faut savoir casser sa vie pour une chose sans importance à notre époque, figurez-vous. L'honneur.
Le soir du 4 mars 1969, l'Élysée soutient officiellement les Pompidou et annonce l'invitation du couple à la table du président à l'Élysée. Cette initiative résonne comme un soutien, effectivement, et la presse se calme. Pour la première fois, le général de Gaulle aide son ancien Premier ministre dans cette affaire. Mais il est trop tard. Entre les deux hommes, la fracture est profonde. Le repas a lieu le 12 mars. La rencontre est froide. Le général promet à Georges Pompidou, comme seul gage, de demander à la chancellerie d'orienter l'enquête exclusivement sur le crime et non plus sur les rumeurs. Dans le même temps, Georges Pompidou accepte de faire campagne pour le oui en faveur du général, qui s'est engagé dans un aventureux référendum à l'intitulé ambigu, peu mobilisateur et même totalement incompréhensible tant il paraît éloigné des préoccupations des Français. Un référendum sur la réforme du Sénat et sur la régionalisation, autant si la branche sur laquelle on est assis. Une initiative qui confirme que depuis mai 68, la figure tutélaire de la Ve République a perdu la main. En quittant l'Élysée ce soir-là, Georges Pompidou ne sait pas qu'il ne verra plus jamais l'homme qui l'a accompagné pendant 22 ans.
L'affaire Marcovic.
Il est vrai que Stéphane Marcovic.
L'affaire Marcovic.
À la fin du mois de mars 1969, le juge Patard reprend donc l'instruction et s'oriente désormais, vu les consignes, exclusivement sur l'assassinat de Stéphane Marcovic. Le 1er octobre, lors de la découverte du corps, celui-ci était enveloppé dans une toile plastique. Après plusieurs semaines d'enquête, les inspecteurs établissent qu'il s'agit d'une housse utilisée depuis un an par la société orléanaise de matelas Tréca Pullman. Ils lancent donc les recherches sur les ventes de ce matelas. Et le 10 avril, un antiquaire déclare avoir vendu ce modèle à François Marcantoni. L'étau se resserre sur le possible assassin, reste à connaître le mobile. À Paris et dans toute la France, les unes sur l'affaire Marcovic laissent la place aux enjeux de la campagne pour le référendum prévu le 27 avril 1969. Après les événements de mai 68, le général attend la confiance du pays. Si le nom l'emporte, il partira, il l'a dit, il le fera. À droite, la succession du général est dans toutes les têtes. Jean Le Caneux, qui avait fait sensation lors de la dernière présidentielle en 65, avec comme arme principale un sourire qui fleurait bon la publicité pour dentifrice, se positionne au centre, c'est-à-dire nulle part, dans cette Ve République bipolaire. Valéry Giscard d'Estaing, l'ambitieux jeune ministre des Finances, se positionne lui aussi dans la nébuleuse centriste qu'il sera finalement le seul à faire triompher en 1974. Là, il est à la tête des Républicains indépendants et mène un jeu complexe de grands fauves politiques. Il cherche à susciter la candidature d'Antoine Pinay, puis se récuse, puis rencontre Alain Poher avant de rallier Georges Pompidou le 30 avril. Tous font campagne pour le non au référendum proposé par le général de Gaulle. Georges Pompidou, lui, ne trahit pas sa promesse. Et, sans le savoir encore, il accompagne le général dans son dernier acte politique. Oui, le dernier. Car le 27 avril 1969, le non l'emporte avec 53% des voix, montrant ainsi au général la voie qui mène à la sortie. Cette lettre, écrite par le général de Gaulle au chef du gouvernement de l'époque, Maurice Couve de Murville, en dit long.
Mon cher Premier ministre, je vous adresse 6 juin, à toutes fins utiles, l'acte en vertu duquel je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. C'est du fond du cœur que je tiens à vous remercier et à vous donner témoignage du concours tout à fait éminent et à tous égards excellent que vous m'avez apporté comme Premier ministre pour le service de notre pays après l'avoir fait pendant 10 ans comme ministre des Affaires étrangères. D'autre part, tous les membres du gouvernement qui ont, autour de vous, porté la charge des affaires publiques avec tant de distinction et de dévouement, peuvent être assurés de ma profonde estime et de mon cordial attachement. Je vous demande de le leur dire. Veuillez croire, mon cher Premier ministre, à ma fidèle et dévouée amitié, signé Charles de Gaulle.
Le lendemain, Georges Pompidou se déclare candidat. Il sera élu quelques semaines plus tard président de la République, battant le centriste Alain Poher au deuxième tour à l'issue d'un scrutin où la gauche n'aura joué que les utilités. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou est investi officiellement devant les caméras de RTF, président de la République.
Au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. De par l'article 6 de la Constitution, qui porte que le président de la République est élu pour 7 ans, les pouvoirs qui vous sont conférés par cette élection ayant pris naissance le 19 juin 1969, c'est le 19 juin 1976 que ces pouvoirs parviendront à leur terme. Ainsi, vous ayant vu à l'épreuve, le pays vous a marqué sa confiance.
Après son investiture à l'Élysée, Georges Pompidou s'entoure de ceux qui n'ont cessé de l'accompagner pendant ces mois difficiles. Il charge Michel Debré, son nouveau ministre de la Défense, un gaulliste historique, de lancer une enquête sur le rôle du SDES dans la machination Markovic. Jean-Charles Marchiani, l'auteur de la note sur l'album Photo, est dans le viseur des enquêteurs. Il préfère prendre les devants et démissionne le 1er mars 1970. Mais ce n'est qu'en 1975, après le décès de Pompidou, que l'enquête sur la mort de Markovic rebondit.
Un homme s'accuse ce soir d'avoir fait assassiner Stéphane Markovic. Cet homme est l'un des témoins déjà entendus dans cette affaire vieille de 7 ans. Cet homme s'appelle Uros Milicevic. Il était l'un des amis de Markovic. Milicevic, tout juste rentré de Yougoslavie, s'est présenté samedi soir aux policiers et il leur a dit « c'est moi qui ai demandé à Marc-Anthony de tuer Markovic ». Marc-Anthony, Milicevic, il faut revenir sur tous ces personnages de la Joissonnade et d'abord celui qui s'accuse.
En 1976, après 7 ans de procédure, François Marc-Anthony, faute de preuves, bénéficie d'un non-lieu. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui a organisé la rumeur Markovic. Jusqu'à sa mort, le 2 avril 1974, Georges Pompidou conservera une petite feuille de papier où étaient inscrits les noms des différentes personnes liées à cette affaire, toutes ou partie de celles qui l'ont lâché ou qui sont soupçonnées d'avoir alimenté les ragots. On peut imaginer que dans cette liste noire qu'il conservait partout sur lui, Georges Pompidou avait inscrit le nom de certains journalistes, juges, avocats, personnalités politiques et peut-être, les noms de ces petits colporteurs qui, dans les dîners, ont propagé la rumeur assassine. Bay Parkway Wonder, you're such a success. Say you are the best.
friends. Merry Christmas, you all.
Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Markovic. Notre invité, Éric Roussel. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le biographe de Georges Pompidou. On va commencer, si vous voulez bien, par la question la plus difficile. Alors, c'est un coup monté, cette affaire Markovic. C'est évident. Par qui et pourquoi?
C'est un coup monté, mais c'est probablement... au départ, c'est pas un coup monté. C'est une affaire très complexe, une affaire à tiroir. Il y a plusieurs affaires qui se superposent. Au départ, c'est une affaire tout simplement crapuleuse. Il y a une, vous avez très bien retracé dans l'émission tout l'enchaînement judiciaire qui s'est produit. Et puis, à partir de cette affaire crapuleuse et de ses prolongements judiciaires, il commence à y avoir une exploitation politique. Parce que Georges Pompidou se trouve mis en cause, probablement de façon non innocente, pour essayer de...
De lui barrer la route
et aussi pour certains sans doute d'écarter les soupçons. Donc, à partir du moment où le nom de Georges Pompidou et de son épouse sont prononcés, il y a une exploitation politique proprement dite. Mais cette exploitation politique elle-même est très complexe, parce que, autant qu'on puisse le savoir, et je ne crois pas d'ailleurs que Georges Pompidou soit arrivé à des conclusions absolument tranché. Je doute d'ailleurs qu'on y arrive. Il y a eu probablement pas un seul maître d'œuvre, mais plusieurs, et qui n'agissaient pas forcément d'ailleurs de façon concertée. Mmh. Il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que depuis mai 68, Georges Pompidou était l'homme le mieux placé pour succéder au général de Gaulle.
C'était le personnage central de la vie politique.
Voilà, hein, exactement. Clair. Il avait été Premier ministre pendant 6 ans, et il avait été Premier ministre surtout pendant ces événements de mai 68. Et là, il avait montré une certaine solidité qui avait été appréciée par l'opinion. Et les élections qui ont dénoué la crise en juin 68 se sont faites, on peut le dire, sur son nom. D'où le hiatus qui s'est créé avec le général de Gaulle et, on peut dire, l'éloignement qui s'est produit entre les deux hommes à ce moment-là.
Alors, on va pas tomber dans le fantasme, mais essayons d'identifier ceux qui en voulaient à Georges Pompidou. Alors, on sait que dans la sphère gaulliste, il y a les gaullistes historiques, je l'ai dit, hein, qui sont dans le sillage du général de Gaulle, qui ont connu la résistance avec lui, puis il y a les autres. Est-ce qu'on pourrait penser que la partie gaulliste historique issue de la résistance aurait voulu barrer la route à ce néo-gaullisme qui était celui de Pompidou?
Oui, c'est quand même assez complexe, parce que, par exemple, un homme comme Maurice Couve de Murville, il est arrivé, il avait eu un poste important à Vichy. On ne peut pas le classer parmi les résistants. Il est arrivé en 1943 à Alger. On ne peut pas dire qu'il fait partie des... C'est pas vraiment un résistant historique. Donc c'est plus complexe. Il y a certainement, de la part d'un certain nombre d'éléments de la famille gaulliste, un certain ressentiment, une certaine jalousie vis-à-vis de Georges Pompidou, qui a été extérieur à la résistance, et qui, dans le sillage du général de Gaulle, a tout d'un coup ce destin fulgurant. Alors, pour ces gens qui suivent le général depuis 40, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait incongru, qu'ils ont du mal à admettre. Alors, il y a toutes les jalousies qui se manifestent. Et puis, il y a aussi l'action d'officines, de milieux liés au SDEC, certainement, puisque Georges Pompidou a nettoyé le SDEC, ça a été la tâche de...
Les anciens services secrets.
Georges Pompidou a nommé Alexandre de Maranche à la tête du SDEC, notamment pour effectuer ce nettoyage. Comment se faisait l'interaction entre ces différents personnages? C'est difficile à établir. On parle d'une rumeur. Il y a une rumeur, mais il y a aussi un montage. Ça va quand même plus loin. Puisqu'il y a ces fameuses photos dont vous avez parlé.
Et puis un meurtre, ça commence par un meurtre.
Il faut être clair, Marcovic n'a pas été tué pour compromettre Pompidou. C'est parce qu'il a été tué que le nom de Pompidou est apparu. Voilà, c'est quand même quelque chose.
Voilà, ça donne à l'affaire quand même une certaine lourdeur.
C'est une affaire qui dérape. Et le nom de Pompidou. À partir du moment où il apparaît, où il apparaît dans cette affaire, donne l'idée à certains d'exploiter cette affaire contre lui.
Bon, on saura jamais finalement qui est à l'origine de ça.
On le saura peut-être, il y a peut-être des documents, c'est possible. Ce que je pense, c'est que chacun des protagonistes avait une vision, si vous voulez, peut-être un peu tronquée de l'affaire, un angle de vue particulier, et chacun voyait l'affaire dans son... Et puis il y a sans doute pas eu que des gaullistes d'ailleurs. Vous savez, il y a tous les gens que Georges Pompidou gênait. Donc ça fait pas mal de monde finalement.
Est-ce que c'est Georges Pompidou qui disait occupez-vous de mes ennemis, je m'occupe de mes amis. Alors ça pourrait être Talleyrand. Il avait peut-être raison. Et si c'était ses amis. Alors on va écouter Claude Pompidou tout à l'heure, mais juste avant le général de Gaulle, le comportement du général de Gaulle. On sait que Georges Pompidou est blessé du comportement du général de Gaulle, qu'il le soutient pas. Alors il y a ce dîner parce que voilà quoi, c'est courtois, c'est de la politique. Mais enfin bon, il le soutient pas.
Ben, c'est-à-dire que, pour comprendre les choses, il faut remonter encore une fois à mai 68, à l'éloignement qui s'est produit à cette époque-là. Le fait que les élections aient été gagnées sur le nom de Pompidou. Il y a tout simplement, vous savez, le destin. Quand il y a la rencontre de deux courbes, la courbe ascendante d'un personnage comme Georges Pompidou, et puis la courbe nécessairement descendante, oui. Tout simplement en raison de son âge, qui est le général de Gaulle. À partir de là, ben, c'est une sorte de drame antique. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. À partir de cette rumeur d'éloignement, de mésentente, enfin, entre les deux personnages, est né dans l'esprit de certains, dans la majorité de l'époque, l'idée qu'on pourrait attaquer Georges Pompidou sans être nécessairement désavoué. Voilà, c'est aussi simple que ça, sans doute.
Alors, il y a une dimension humaine là-dedans, tout bêtement humaine. Il y en a une autre, évidemment, c'est celle de Claude Pompidou, qui était très blessé et qui est revenu sur cette affaire lors d'un enregistrement assez saisissant, vous allez l'entendre, en 1989.
Vous avez été directement calomnié.
Oui, moi j'ai été directement calomnié. J'y croyais même pas. Lorsqu'on me l'a dit, je ne pouvais pas. Je me suis dit, mais c'est une blague qu'on me raconte là. Ça paraissait ridicule. En sorte, c'était une sorte de complot, mais dont il est un peu compliqué de parler, et d'ailleurs difficile de retrouver absolument tous les nœuds. Mais enfin...
Disons que c'était une photo, que c'était un faux, et que le faux était très, très apparent. Donc, vous ne faites aucune confiance à la politique. C'est-à-dire, au nom de la politique, je crois qu'on peut... inventer n'importe quel scandale, et vous vous en méfiez terriblement aujourd'hui.
Je crois que la presse, si elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Mal. La presse est très puissante. Elle peut faire beaucoup de bien. Et en général, tout de même, elle fait du bien en ce sens qu'elle rapporte les événements tels qu'ils sont et qu'elle informe tout le monde. Mais il arrive quelquefois que, soit par manque d'informations ou autre raison, je ne sais pas, elle puisse faire beaucoup de mal.
Et c'est terrible.
Et c'est dommage.
On vous a attaqué pour abattre Georges Pompidou.
Oui, bien sûr, naturellement.
Et lui, il avait compris, il en a été encore peut-être plus malheureux. Il aurait préféré être blessé lui-même.
Oui, bien sûr, elle a été beaucoup plus malheureux que moi. C'était plutôt moi qui le remontais. Parce qu'il admettait très mal que moi qui n'aimais pas la politique, je me trouve justement prise dans une histoire comme ça.
Vous avez rencontré Claude Pompidou lors de l'écriture de votre biographie.
Sûr. Alors,
parlez-nous un peu de cette femme. Alors, nous, on ne la connaît pas, mais on a le souvenir d'une femme élégante, très élégante, réservée, ne faisant surtout pas de la politique, surtout pas toucher à ça. Elle en avait peur, elle le dit d'ailleurs.
Non, elle était tout à fait extérieure à la politique. Et d'ailleurs, Georges Pompidou lui-même n'avait pas ses amis, ses véritables amis, dans le monde politique.
D'ailleurs, le général de Gaulle lui reprochait, lui disait, c'est quoi cette vie nocturne? On prend des risques quand on sort.
Oui, c'était pas lui. Ils allaient à Saint-Tropez. Alors évidemment, à partir de là, ça faisait un terrain, si vous voulez, sur lequel on pouvait fantasmer. C'est des choses totalement ridicules. Mais enfin bon, dans l'esprit de certains, il y avait ce terrain, voilà, qui se prêtait à des rumeurs. Non, pour en revenir à Claude Pompidou, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a absolument pas voulu que son mari fasse de politique. Ça, c'est évident. Elle l'a pas du tout poussé dans ce sens-là. Mais, enfin bon, là, il était placé dans une situation qui ne lui laissait pas d'autre issue que de sortir par le haut. Donc, il était engagé dans ce processus. Et finalement, d'ailleurs, quand on voit comment les choses ont tourné, on s'aperçoit que cette affaire qui était destiné à l'abattre, finalement, ne lui a pas nui. On a rappelé
coup d'épée dans l'eau.
Oui, on a rappelé le score qu'il a obtenu à l'élection présidentielle.
58.
Cette affaire. Et ça ne lui a pas nui. Et il faut dire aussi que, quelle qu'était à l'époque l'importance de la presse écrite, notamment, et de la radio, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux. Alors cette affaire, elle a été connue surtout dans ce qu'on appelait à l'époque le microcosme. Mmh. Elle en est sortie tout à fait à la fin, quand il y a eu des prolongements judiciaires, lorsque la radio nationale à l'époque a fait état de la convocation de Georges Pompidou. Et d'ailleurs, quand Georges Pompidou réagit, il prend bien soin de dire l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, pour bien marquer qu'en s'attaquant à lui, on risque aussi d'attaquer le général. Et la réplique ne se fait pas attendre, enfin la réaction ne se fait pas attendre, il est immédiatement invité à dîner. Voilà.
Oui.
Donc, si vous voulez, grosso modo, c'est une affaire lamentable, absurde, parce que en réalité, elle n'a rien changé. Je ne crois pas que ça ait déplacé une seule voix. Et il est apparu tellement rapidement que cette affaire était destinée à l'abattre, que ça s'est plutôt retourné. Je pense pas qu'il y ait eu des études d'opinion sur ce point précis, mais on peut penser que ça a eu un effet nul.
Bah les faits le prouvent, effectivement, voilà. Les 58%, voilà. La victoire large. Dernière chose, Éric Roussel, cette liste-là, Georges Pompidou avait vraiment une liste avec les noms.
Il avait une liste, oui. Voilà. Ça, il avait une liste. Mais bon, c'est une, si vous voulez, c'est une liste qui n'a pas forcément une valeur absolument scientifique. C'est aussi le réflexe de quelqu'un qui a été mis en cause de façon odieuse et qui réagit. Et c'est vrai que je crois qu'il portait cette liste sur lui jusqu'au bout. Bon, ça ne veut pas dire que tous les gens qui étaient sur cette liste étaient tous... Encore une fois, on n'a pas pu faire absolument la lumière. Et puis, il y a des gens qui ont été simplement maladroits aussi. C'est très difficile à dire. Par exemple, le ministre de l'Information, Joël Le Teul, dont vous avez parlé, je ne crois pas qu'il a peut-être été maladroit, mais je ne crois pas qu'il ait été l'instrument d'un complot.
Bien, il me reste à vous remercier, Éric Roussel. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui est le livre référence sur Georges Pompidou et qui s'appelle tout simplement Georges Pompidou. Encore une fois, merci. Au revoir, merci. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Markovic. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain dans Affaires Sensibles, nous reviendrons sur l'affaire des micros du canard enchaîné.